Ah, bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport en ce mercredi. De plus en plus, on sent l'ambiance du Grand Prix et dès demain dans nos émissions, ça va prendre encore plus de place. Jacques Villeneuve sera avec nous et je vous annonce en primeur ici ce soir aux amateurs de sport, je pense une nouvelle qui va faire plaisir à bien des gens. Jacques Villeneuve va conduire la Formule 1, la même Formule 1 conduite par Gilles en 1978 avec laquelle il a gagné le Grand Prix, le premier Grand Prix disputé sur le circuit de l'île Notre-Dame. Eh bien, ça va faire plaisir aux gens. Je pense que ça va créer toute une ambiance pour la course. Ça va se passer dimanche avant la course. La numéro 12 est j'y vais, Jacques Villeneuve à bord. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de course, pour les gens qui savent déjà qu'ils vont être au Grand Prix. Je pense que ça va être un moment magique et je lui dirai en personne demain, mais je sais que c'était pas évident de placer ça dans l'horaire de Jacques, mais je le remercie d'avoir accepté en quelque sorte de faire ce geste pour faire plaisir aux gens parce que je pense qu'il a été sensibilisé et sensible au fait que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de gens. Alors voilà, l'annonce est faite. Jacques dans la 12 de Gilles, dimanche. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de changement d'horaire, mais ça, je vous le dis, c'est sûr à 100%. Hein? Voilà, je suis content de vous annoncer ça. Maintenant, Joanne sera là également demain, de même que Philippe Lagu, une belle heure de Formule 1. Maintenant, ce soir à l'émission, accueillons d'abord Mario Tremblay. Bonsoir, Mario.
Monsieur Langlois, bonsoir.
As-tu croisé Gilles Villeneuve, toi, dans ces grosses années?
Là? Oui. Je me souviens d'avoir été dans un Grand Prix. Je l'ai rencontré à cause de Guy Lafleur, justement. Guy Lafleur était là également. Alors, c'est ce qui m'a donné la chance de rencontrer Gilles. Mais ce que tu viens d'annoncer là, pour moi, tu comptes sûr, j'ai des frissons parce que j'ai écouté sa mère il y a pas longtemps avec toi. Puis sa mère mentionnait que les deux hommes de sa vie étaient Gilles et Jacques.
Exact.
Et de voir Jacques conduire la voiture de son père. Ai-je besoin de dire que la madame va être quand même très émotive?
Ben écoute, c'est
ça va être vraiment quelque chose de spécial, là, sérieusement, là, wow!
Vraiment. Et Jacques l'a fait à deux reprises, mais en Europe, dont une fois à Fiorano, et ça a été loin du Québec et des yeux du peuple québécois et des Canadiens. Alors, mais je peux te dire déjà, je sais pas comment il va le revivre dimanche dans la 12, mais quand il l'a vécu une fois, ce qui l'avait le plus frappé, c'est de se rendre compte que la voiture était taillée, autrement dit... La façon dont la voiture, son siège pour Gilles, la façon dont c'était parfait pour lui. C'est comme si c'était les mêmes mesures, si tu me passes l'expression, là, je l'exprime mal, là, mais c'était comme si le siège avait été fait pour lui, mais c'était le siège de Gilles. C'était tout fitait. Tu sais, c'est comme ça, c'était comme naturel.
Mais tu sais, Mario, lorsqu'on regarde l'histoire rapidement, là, lorsque le Grand Prix est arrivé à Montréal, Toronto avait dit non, et Montréal, le maire Drapeau, dans le temps, avait dit oui, on a construit cette piste de course-là, je pense, en l'espace de 5 mois, c'est tout simplement malade. Et d'avoir le Grand Prix à Montréal, lorsqu'on écoute les restaurateurs, justement, au centre-ville de Montréal, les hôtels, il y a beaucoup de restaurateurs là que dans cette semaine-là, 8, 9 jours, 10 jours, qui font pratiquement leur année avec le Grand Prix de Montréal. Alors, ce sont tellement des visites importantes là partout à travers l'Europe, les États-Unis, qui viennent ici à Montréal pour le Grand Prix.
Ah, c'est gros.
Bravo, c'est pour Montréal, c'est vraiment un événement majeur.
Gilles, t'as-t-il allé vous visiter dans le vestiaire, Guy?
Oui, il est déjà venu dans le vestiaire. Oui, je m'en souviens bien, c'était en 78-79. Dans ce coin-là, là. C'est un peu vague dans mon esprit, mais effectivement, il était venu dans le vestiaire du Canadien, puis évidemment, quoi, nous, les Québécois, on était tous très fiers de lui. Alors, c'était quand même on a eu des belles relations dans ces années-là, non seulement avec Gilles Villeneuve, mais aussi avec Gary Carter, tu sais, avec les Expos. On était quand même assez près.
Il y avait une camaraderie?
Une camaraderie, ouais, effectivement, parce qu'on demeurait, la plupart des gars demeuraient dans le West Island, Kirkland, Bitterfay, Beaconsfield. Alors, on avait la chance, finalement, de se côtoyer à l'occasion.
Ben, fort intéressant que tu partages ça avec nous autres, Mario, et j'ai bien hâte de vivre ça dimanche, de voir Jacques dans la Ferrari numéro 12 maintenant.
Ça va être spécial, pas à peu près, là, wow.
Ben, des sujets que je vais aborder ce soir avec toi. J'avais envie de te faire une petite blague plate, mais tu sais, tu parlais des gens, puis du rayonnement, puis évidemment de l'économie qui tourne pas mal fort quand la F1 débarque à Montréal. Je voyais que il y avait des gens qui estiquaient leur set de coutellerie en diamant à 12 000 piastres, le set, Mario. pareil comme chez vous. Pareil comme en brasserie.
Mais c'est malade. Hein. Il y a tellement d'argent là-dedans. Là, puis tellement de personnes qui viennent à Montréal. Ouais. Écoute, c'est ça qu'on disait l'autre jour avec mon chum. Imagine-toi les Européens avec l'euro, puis les Américains avec le dollar américain qui arrivent ici au Québec. Hey. Imagine-toi une minute. Là,
c'est un peu.
Ben, c'est un monde de différence. Écoute, là, tu sais, c'est malade.
Maintenant, on va parler un petit peu de hockey. Hey, j'ai envie de te lancer, pas avec une question qui concerne la finale, mais une question qui concerne le marché des joueurs autonomes ou des transactions. Puis là, ben, veux pas, on sent la finale arriver à sa fin, là, d'ici quelques jours, peut-être demain. Je pense qu'ils vont survivre un autre match, mais, et donc, on se prépare au repêchage. Marché des joueurs autonomes, transactions potentielles. Différents sites, TSN y allait notamment avec cette question-là. Parmi les gros noms qui risquent d'être disponibles via transactions, on mentionne ceux de Jeff Skinner, de la Caroline, Pacioretty à Montréal, Ryan O'Reilly à Buffalo, Phil Kessel à Pittsburgh, et c'est pas moi qui le mets pour mettre du piquant dans la conversation, son nom sort à tort ou à raison, Piquet Souban aussi, est mentionné là, sur différentes tribunes. Je te demande, moi, de tous ces joueurs-là, Kessel, O'Reilly, Souban, Eric Carlson, je te l'ai-tu nommé, je pense que je l'ai oublié.
Non, tu l'as oublié.
Pacioretty, parce qu'on mentionne aussi le nom de Carlson. Quel serait le gars que tu voudrais absolument dans ton équipe? Peu importe la position, ta masse salariale, oublie les gars que t'as là, puis la position que t'as, le meilleur joueur.
Ben moi, je regarde là ce que le Canadien a besoin, puis le meilleur joueur. Pour moi, là, Skinner oublie ça, ce serait O'Reilly définitivement avec les Sabres de Buffalo. Et évidemment, il y a encore 5 ans de contrat à 7 millions par année, c'est pas grave, le Canadien a de la place sur sa masse salariale. Puis là, je pense que le deuxième qui va être choisi va être Max Pacioretty. On me dit que les Kings de Los Angeles sont très intéressés à Max Pacioretty parce qu'on veut avoir un ailier gauche capable de marquer des buts. Alors, dans le cas de Carlson, c'est encore...
C'est sûr. Je pensais que tu allais me dire Carlson en partant.
Pas pour moi. Je pense pas nécessairement. Je pense qu'on peut s'améliorer en défense sans avoir un gros nom comme Carlson. Moi de préférence, honnêtement, j'aimerais mieux y aller avec ce qu'on a besoin de plus. On en a parlé lundi avec Danny et toi.
Oui.
On recherche de l'attaque, on cherche un joueur de centre. Mario, dans le fond, il faut prioriser, là, donner une priorité sur ce qu'on a besoin, d'améliorer la ligne de centre. Et c'est le travail, je pense, que Marc Bergevin se doit de faire là avant le début de l'an prochain, sans aucun doute.
Ma seule inquiétude, c'est qu'à défaut de pouvoir mettre la main sur un candidat numéro un, qu'on se peinture dans le coin avec un contrat de 4-5 ans, parce que même un candidat numéro 2, il va en avoir des offres partout dans la Ligue. Tu vas être comme Alzner, regarde le contrat qu'on a donné à Alzner, fait qu'on peut présumer qu'il y avait une offre pas loin d'être...
Mais encore là, c'était une erreur majeure de la part de Marc Bergevin et de ceux-là qui l'ont conseillé. Puis je suis sûr là que si Bergevin est en onde avec nous à soir pour lui poser la question, puis Marc, qu'est-ce que t'en penses, Alzner? Si tu penses qu'il répondrait, quelle erreur que j'ai faite, ça n'a pas d'allure. Puis de toute façon,
pas sûr qu'il te dirait en onde, mais peut-être que au coin du bar, peut-être. Ou de la table, tiens.
Ouais, c'est ça. Ben peut-être au coin du bar aussi.
Mais
de toute façon, on le voit, on en a parlé.
Ben oui.
Tu sais, dans le fond, on regarde ça, un gars comme Osner qui est caché comme 5e défenseur avec Washington, donc la rondelle est toujours dans le territoire adversaire. Alors, c'était, avouons-le, puis ceci étant dit, sans aucune méchanceté, ça a été une erreur majeure de la part du Canadien d'avoir signé ce gars-là pendant 5 ans. Tabarouette. Tu sais, puis dans le fond, là-dedans aussi, ce qu'il faut regarder bien souvent, le travail d'un directeur gérant, c'est beau de se fier à ses bras gauche, bras droit, appelez-les comme vous voulez, mais à quelque part, faut que le boss le voit jouer. Tu peux pas signer une entente comme ça parce que le directeur général, lui, ce qu'il fait, il va demander à Dudley, il va demander à Martin Lapointe ou à quelques-uns d'autres, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, celui qui va prendre les décisions finales, c'est le boss, c'est Marc Bergevin. Mais si Bergevin n'a pas assez de connaissances dans le cas de Osner, il ne peut pas se permettre de donner un contrat de 5 ans à un gars comme ça. Ça fait aucun sens.
Non.
Ça fait aucun sens.
Et j'ai peine à croire et comprendre pourquoi on a été contraint de donner 5 ans. Est-ce que ça veut dire que l'agent, il y avait un bluff ou il y avait vraiment bien d'autres équipes qui étaient prêtes à donner quelque chose de semblable?
Mon pauvre maire, c'est toujours la même histoire. Souviens-toi, un moment donné, Gilles Lupien avec Martin Lapointe qui a fait monter les enchères, et Gilles Lupien avait fait signer Martin Lapointe avec les Blues de Boston. Daniel...
Brière, notre ami Daniel, avec Philadelphie.
Même chose. Puis à un moment donné aussi, on parlait de Vincent Lecavalier, peut-être à Montréal, patati patata. Alors, il y a plusieurs les gérants qui font justement monter les enchères parce qu'ils savent que leurs clients ne veulent pas venir jouer à Montréal. Bon, c'est pas compliqué, là. C'est un peu écœurant, mais c'est le même qui opère.
Moi, c'est
bien, ce que je te dis.
C'est bien dit. Une petite question, pas pour vivre dans la nostalgie, mais tu sais, on a vu Ken Hitchcock rapatrier un joueur comme David Perron à Saint-Louis après s'en être départi.
Ouais.
Penses-tu que Marc Bergevin, s'il pouvait rapatrier un des joueurs dont il s'est départi dans les dernières années, on en voit quelques-uns encore en série, juste pour le fun de la conversation, lequel tu penses qu'il rapatrierait? ou toi que tu rapatrierais?
Ben, moi,
ou pas un, peut-être?
Non, mais le joueur, honnêtement, c'est une très bonne question que tu me poses là. Le joueur que moi, je rapatrierais, ça serait Lars Eller. Tu sais, peut-être pas dans le top 6, mais quand même, comme
où qui était?
Où il était auparavant. C'est ça, comme joueur de centre numéro 3. Parce que, comme on a dit justement lundi, encore une fois, avec Danny et toi, tu sais, Lars Eller, dans les séries éliminatoires, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Tu sais, je pense qu'il a fait le travail qu'il avait à faire. Puis, s'il y avait un joueur que je ramènerais, ça serait Lars Eller, pour les raisons, justement, que je t'ai mentionné tantôt. Parce que on a des problèmes dans la ligne du centre. Puis, moi, je pense que c'est lui que je ramènerais.
Les deux entraîneurs en présence en finale, Barry Trotz et Gérard Gallant, beaucoup d'éloges, évidemment, qui viennent d'un petit peu partout quand on amène son équipe en finale. L'entraîneur actuel des Canadiens l'a vécu et a amené son équipe à la conquête de la Coupe cette année, une autre finale. Est-ce que tu penses que Claude Julien est plus près d'être des tactiques ou de l'approche d'un Gérard Gallant ou d'un Barry Trotz?
Ben, je souhaite pour Claude Julien que ce soit plus comme un Barry Trotz. Parce que lorsqu'on regarde ça, là, tu sais, la tête reposée, je me souviens à un moment donné, André Savard, à sa première saison, je pense, avec les Sœurs de Buffalo, s'était rendu pratiquement en finale de la Coupe Stanley. Fait que là, André, il commence à sa carrière. C'est pas grave, je vais avoir la chance d'y retourner. Mais non, mais il est jamais retourné là. Puis je pense que c'est contre les Flyers de Philadelphie, je me souviens bien.
Oui, oui, oui.
Alors, tu sais, des fois, on dit souvent non, des fois, on dit la fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte, ouais, mais la fenêtre, elle peut se refermer rapidement. Parce que vous connaissez la compétition qui existe dans la Ligue nationale. D'y aller une fois, c'est pas garant d'y retourner une deuxième fois.
Non.
Puis, dans le fond, moi, je regarde ça pour Barry Trotz. Tu sais, Barry Trotz, lorsqu'il était à Nashville et lorsque nous, on était à Minnesota, il avait une belle relation avec Jacques Lemaire. Puis, Barry Trotz, c'est un bon entraîneur, qu'on le veuille ou non. Dans les années où il a été, à Nashville pendant 10, 11, 12 saisons, tu sais, il a quand même laissé beaucoup de bonnes choses avec cette organisation-là. Et lorsque Washington est allé le chercher, et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutent ce soir, que Barry Trotz, là, est à la fin de son contrat.
Oui.
Avec les Cavs de Washington.
Oui.
Fort possiblement qu'on lui a dit, écoute, si tu gagnes pas, bye-bye, on va en engager un autre. Mais là, s'il gagne la Coupe Stanley, est-ce qu'il va être assis dans la bonne chaise pour négocier une nouvelle entente?
C'est sûr.
Un peu peut-être, comme de celle de Mike Babcock avec les de Toronto.
Ouais.
Parce que lorsque tu remportes une Coupe Stanley, mon meilleur, it's time to cash in.
Fait que t'as passé par là souvent, toi, mon Mario. Les chefs, t'as pas aimé même à la fin des années 70. Heureusement que t'as coaché, hein, quand même.
Évidemment.
T'as pu te reprendre.
Ben, on s'est repris un peu, mais c'est donc, des fois, on en parle, des fois, avec les anciennes au centre de
ça doit, hein.
Tu sais, je me souviens, Guy Lafleur, c'est sa meilleure saison, je pense, ça avait été une affaire comme, ça avait même pas été un million par année, je pense, avec
c'est Pierre Bouchard qui avait dit, à un moment donné, qui avait parlé de son contrat, en voulant dire, Pierre, t'as mieux payé Guy, je pense, à un moment donné.
Ben, exactement, on était à Toronto, puis là, nous, Guy Lafleur, il nous dit, je joue pas à soi, je fais la grève. Yes, sir, fais la grève, mon chum, fais monter nos salaires. Puis toutes les plus vieux, moi j'étais plus jeune dans ce temps-là, mais les plus vieux, là, Savard, Lapointe, Larry, ils disaient à Flower, oh oui, go, parce que t'es pas assez payé. Puis effectivement, puis j'oublierai jamais la fois où je pense qu'il était environ 7-8 joueurs du Canadien qui ont pris sur un napkin, ils ont écrit leur salaire. Oh boy, à partir de ce moment-là, je peux te dire une affaire. Puis dans le fond, ça a été l'une des meilleures choses qui est pas arrivée avec cette organisation-là, que les joueurs commencent à dire leur salaire. Puis il y en a une couple là-dedans qui pensait que t'as bien payé. Mais il y en avait d'autres qui étaient mieux payés qu'eux et ils n'auraient pas dû être mieux payés qu'eux. Alors, tu sais, puis on dit souvent, lorsqu'on a dévoilé les salaires dans la Ligue nationale, mon Dieu, c'était la meilleure chose pour les joueurs, sans aucun doute, Mario. Voyons donc.
Le premier, donc, dévoilement non officiel des salaires, ça s'est fait sur un bout de napkin, Mario.
Ouais, ouais, des crayons. Les gars, il y avait un crayon.
D'une taverne, quelque part, où?
Ouais, c'est au carabinier, là, au bord de la rue, à côté du vieux forum. Ouais, ouais, les gars avaient un crayon, puis ils ont dit, écrivez vos salaires sur une napkin. Fait que là, c'est marqué, je sais pas, Guy Lafleur. Ben, regarde, c'est une histoire vraie, là. Je compte pas ça pour faire.
Je te crois tout le temps, moi, Mario. T'as même pas besoin de le dire.
C'est très vrai.
Je vois le film. Je vois les chaises. Je vois la boucane de cigarettes. Je vois le barman qui vous demande si vous voulez un refill.
La cigare à savoir, bing, bing.
Puis là, je vois une coupe de baboune quand il voit le salaire de l'autre. Puis là, je vois peut-être une dizaine des jours qui suivent avec la direction, je sais pas. Ah non, ça m'a-tu mis le bordel?
Puis je me souviens, quand Jacques Lemaire est parti du Canadien pour aller jouer en Suisse, tu sais, puis Jacques Lemaire, dans le temps, c'était Irving Grandin qui était le directeur gérant. Et l'offre qu'on avait fait, il avait fait à Jacques Lemaire. Jacques Lemaire était tellement insulté. Puis Jacques m'a conté à un moment donné, j'étais justement dans le vieux forum, puis je me promenais en attendant d'aller rencontrer Groundman. Puis je voyais les photos d'un peu tous les joueurs, puis la mienne n'était pas là. Il dit ça, ça m'a blessé énormément. Alors, lorsqu'il est arrivé la première offre d'Irving Groundman à Jacques Lemaire, Jacques Lemaire, il n'était pas sérieux. Il dit, je m'en vais jouer en Europe. Puis là, Irving Groundman est revenu, je pense, une dizaine de jours après, avec une nouvelle offre, mais il était trop tard. Et la décision que Jacques a pris d'aller jouer en Europe, en Suisse, là, c'était une décision quand même qui était réfléchie. Côté monétairement, c'est sûr que c'était peut-être un peu mieux en Suisse parce qu'il ne payait pas d'impôts, il y avait une maison, il y avait un paquet d'affaires gratuits. Mais la décision de Jacques, puis vous l'avez vu, une nouvelle expérience aussi avec sa famille. Alors, c'était, puis Irving Groundman là-dedans, perdant Jacques Lemaire, tu sais, on avait perdu quand même des bons joueurs. Ken avait pris sa retraite, puis... Fait que là, peut-être que Jacques a senti que l'équipe commençait aussi à baisser. Il ne voulait pas avoir autant de pression lorsqu'on avait une bonne équipe. Mais quand même, puis je pense que ça l'a peut-être en partie coûté le poste d'Irving Groundman, cette histoire-là.
Hey, Jacques avait joué 50 matchs à cette dernière saison. Je ne sais pas s'il avait été blessé. Il avait 55 points. 55 points en 50 matchs, puis c'est fini après. Puis j'ai toujours trouvé, puis là, j'ai jamais entendu ce que tu me racontes là. Puis pourtant, j'ai lu, je pense, toutes les biographies de tous les joueurs du Canadien, puis on jase avec vous autres à la radio, ça fait des années, puis même quand je jasais pas, je vous écoutais. J'ai jamais entendu cette histoire-là, mais j'ai toujours trouvé que Jacques c'était donc tiré vite, mais là, voilà que tu mets de la lumière sur tout ça.
Puis la raison pour laquelle il est pas resté en Suisse, c'est parce que sa femme a eu le mal du pays. Michel était pas habitué de partir, c'était une femme qui était une femme unique. Alors, ils sont partis avec les enfants étaient à bas âge dans ce temps-là. Évidemment, la Suisse aujourd'hui, c'est pas comme c'était dans ce temps-là. Alors, c'est la raison, parce que Jacques adorait la Suisse, il a adoré son expérience, les montagnes, le ski et tout ce qu'il allait avec. Mais malheureusement, il a dû rebrousser chemin. Alors, lorsqu'il est revenu, il est allé assistant-entraîneur...
Chevalier de Longueuil. À Plattsburgh.
Il est allé à Plattsburgh un an ou deux avant de revenir au Québec.
Chevalier de Longueuil, puis on s'en souvient encore. Il avait amené son équipe en finale, puis le reste, c'est de l'histoire. Hey, c'est du bonbon, Mario, tu me permets. Nos commanditaires cognent à la porte, ils veulent se faire entendre. On leur laisse la place, puis on revient dans un instant.
OK.
Du basket ce soir, la finale, match numéro 3, Vegas-Washington demain et les Golden Knights, le dos dans les câbles. Juste avant d'aller de ce côté-là, Mario, je sais pas si t'as entendu parler de l'entrevue que Michel Labrec du Parc olympique m'accordait hier qui ouvrait son jeu par rapport à leur intérêt puis l'intérêt des Canadiens. Ça a été discuté de présenter possiblement une classique, classique extérieure dans un stade sans le toit parce que ça va se produire en 2022-2023. Est-ce que t'aimerais ça voir un événement, là... la classique hivernale là, impliquant le Canadien dans le stade olympique.
Écoute, Mario, moi, je trouve très déplorable, premièrement, que c'est jamais arrivé encore à Montréal. On connaît tous, là, les gens qui nous écoutent, l'histoire du Canadien de Montréal. J'ai été à Edmonton pour la classique hivernale à Edmonton. On a vu ce qui s'est passé à Ottawa. Écoute, c'est encore une fois, pour moi, c'est un peu impardonnable. Et si ça arrivait à Montréal, je serais tellement content. Puis il y a tellement de choses qui vont tourner autour de cette classique-là. On peut faire un paquet d'affaires. Et d'avoir les anciens Canadiens également qui seraient tous représentés dans cette classique hivernale-là au Stade olympique, si jamais ça se produit. Oui, je dis bravo. Et je souhaite que ça va arriver à Montréal. Si c'est pas là, j'espère que ça va arriver ailleurs. Évidemment, on connaît tous les problèmes d'un site d'emplacement pour cette classique-là. Mm-hmm. Mais si ça arrivait au Stade olympique, bravo. Je serais très, très, très content.
Moi aussi, je pense que je serais content, mais je dois te dire que j'ai viré capot. On a le droit de changer d'idée.
Ah, Mario, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, mon chum.
Bon, ben, c'est bon signe. Parce que, je vais te dire, ben, franchement, Mario, je regardais toujours ça en me disant, tu sais, quand on parlait de différences. Moi, ça ne me tente pas d'aller en plein hiver d'un stade à la U2, là, comme on avait fait sur l'ancien Blue Bonnet, où j'avais l'impression d'avoir été attrapé comme un nigaud dans une collecte de fonds, là, tout ça. Ouais. Alors que tu pensais que t'avais un bon billet, mais que finalement, ça te prenait des longues vues. Mais peu importe. Puis là, bon, des stades temporaires, plus ou moins. Puis là, le stade de Percival Motion, oui, le décor est beau, mais reste limité en termes de, tu sais, pour dire un gros power, là, d'être nombreux. Puis le stade, ben, je me disais, voyons, c'est pas une classique extérieure. Même si on ouvre le toit, je le disais à Michel Labrec hier, on va juste voir le ciel. Mais tu sais quoi, j'assouplis mon regard sur ça. Puis J'aimerais ça le voir plus, peut-être pas une classique d'extérieur totalement. Oui, il y aurait de la neige dans le stade, pas de toit, puis il planterait des arbres, puis il ferait un décor, mais je le vois comme un Super Bowl du hockey pour Montréal. Puis tu sais, fait que peu importe que ce soit classique Super Bowl, tu sais, oui, je pense qu'on mérite ça. Je suis d'accord, je vous rejoins. Puis peut-être j'ai manqué de souplesse en analysant la possibilité de tenir ça au stade dans le passé, mais il faut dire qu'il y avait un toit là, enlever le toit dans fenêtre-là, ben là ça donne une petite impression de dehors. C'est sûr qu'il va faire froid dans le stade, c'est pas compliqué qu'il fasse froid dans le stade.
C'est sûr.
C'est comme un frigo de béton.
Mais ça peut pas être plus froid que quand on est allé à Edmonton.
Ben, c'est ça que je me dis.
Tabarouette. Nous, j'étais avec RDS, pis on a fait la séance d'entraînement du matin. On a fait le match avec Pierre-Houd, puis bon, écoute, une minute. On avait des mitaines dans les mains. On avait des grosses chaufferettes derrière nous pour nous réchauffer. Alors, ça peut pas être pire qu'à Edmonton. C'est évidemment, comme tu dis, c'est sûr qu'il va faire froid, là, mais en tout cas, regarde.
On s'empêche pas pour ça. Fait que
c'est pas grave.
J'ai viré capot, mon Mario. Ah ouais,
tant mieux.
Au stade olympique.
Tant mieux, Mario.
Je suis pour. Finale demain. OK, on parie-tu sur Vegas, Mario? On prend-tu une chance? Ou...
Écoute, meilleur, je serais pas surpris que Vegas gagne demain. Honnêtement, parce que Gérard Gallant là, va préparer son équipe. Puis on sait tout le temps, de toute façon, que gagner le dernier match, c'est celui qui est le plus difficile, parce que Vegas va se battre ils vont aller à la guerre comme ça se peut pas, au moins pour ne pas perdre la face devant leurs partisans. Quand tu perds sur la route, on dit des fois c'est moins pire que perdre à la maison. Et Washington, avec l'expérience qu'ils ont avec Barry Trotz, les gars vont être au courant de ça. Moi, je m'attends à avoir un match de hockey incroyable. Qui va gagner, je le sais pas, mais je serais pas surpris que Vegas gagne, par exemple.
Il y avait une chance de gagner à Washington dans le dernier match. Je sais pas si t'es d'accord, mais c'est sûr que ça a pas entré, ça compte pas, là, une coupe de potent par terre.
Ben oui, bang, c'est ça. T'sais. Mais on dirait, Mario, que la rondelle roule moins pour eux. Es-tu d'accord avec ça?
Ouais, ça ressemble à ça. Puis Washington joue bien aussi.
C'est ça. Puis je trouvais aussi que dans les autres séries antécédentes, que surtout contre Winnipeg, tabarouette, on disait Vegas sont partout défensivement. Mais là, on voit la machine des Caps foncer vers le filet de Fleury et on voit beaucoup d'erreurs défensives, ce qu'on ne voyait pas auparavant dans les autres séries antécédentes.
Alors, et ils frushent plus vite aussi, là. Tu sais, Vegas, là, ils frushent, ils ont pogné des punitions. Tu sais, tu peux pas, là.
Non.
Mais en même temps, ils n'ont jamais vécu d'adversité comme ça, là. C'est leur première année. Washington, ça fait des années qu'ils ont envie d'adversité, le noyau qui échoue.
Écoute, mon mère, j'avais choisi Vegas, mais si Washington, je vais être très, très content pour eux aussi.
On est pareil, c'est que plus ça avance, dans le fond, on dirait qu'il le mérite. T'sais, c'est une ville qui le mérite. Puis Washington, ça enlève rien à belle histoire de cette année.
Non, exactement.
Ça serait quasiment trop une coupe à la première année. Merci beaucoup, Mario.
OK, mon chum, bonne soirée.
Excellente soirée et à très bientôt. On revient dans un instant avec Philippe Quentin, notamment Danny Dubé aussi.